écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Madame, Messieurs, bonsoir. Assemblée nationale, trois projets de loi en examen ce jour à la Commission des affaires étrangères. Trois membres du gouvernement au front pour leur défense. Lutte contre les discours de haine via la toile. Toute une journée instituée par les Nations Unies pour tirer la sonnette d'alarme sur les ravages de ce phénomène. Ce 18 juin, le dossier du 20h dresse l'état des lieux avec en appui le regard des experts dans la croisade contre la montée en puissance des messages de division dans les réseaux sociaux. Invités des hommes de médias. Petites et moyennes entreprises, plus de 19 000 créées l'an dernier, portant à 393 000 le stock d'entreprises en activité au Cameroun. C'est ce qui ressort de l'annuaire statistique présenté ce mardi à Yaoundé. Bienvenue au journal. Assemblée nationale. L'on a scruté au fond ce mardi trois projets de loi. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun aux conventions des Nations Unies relatives au statut des apatrides et à la réduction des cas d'apatrides. Projet de loi défendu pour le compte du gouvernement par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Le deuxième projet de loi examinée au fond est celui autorisant le président de la République à ratifier le protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce par l'insertion de l'accord sur les subventions à la pêche. Texte défendu par le ministre du Commerce, Luc Magloam Bargatana, qui nous parle des spécificités de ce projet de texte au micro de Pauline Deauville-Mendoza-Mbassi.
Cet accord est le résultat d'un travail de fond mené par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, qui est une Nigériane et qui, dès sa prise de fonction, a estimé que l'organisation était bloquée et a donc adopté une stratégie qui consiste non pas à penser qu'on pouvait conclure d'un trait le cycle de Doha, 10 cycles de développement qui a été lancé en 2001 et qui piétine. Donc elle a pensé qu'il fallait aller par étapes en concluant des accords spécifiques. Et cet accord sur les subventions à la pêche rentre dans cette nouvelle stratégie gagnante. Il a été conçu pour favoriser le développement des pays, notamment les pays comme le nôtre, les pays en développement et les pays les moins avancés.
Luc Magloam Barga, Atana, ministre du Commerce. Quant au troisième projet de loi examiné au fond ce mardi par les membres de la Commission des affaires étrangères, il autorise le président de la République à ratifier l'accord de partenariat entre l'Union européenne et ses membres d'une part et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'autre part. Ce texte est défendu pour le compte du gouvernement par le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Meh. Et en relève l'importance au micro de Pauline Deauville-Mendoza-Mbassi.
Après des discussions riches, denses, auxquelles le Cameroun a pris part en tant que membre de l'équipe de négociation, nous pouvons dire que cet accord nous donne l'occasion d'envisager les 20 prochaines années avec sérénité et détermination dans la mise en commun des efforts de l'Union européenne, des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour faire face aux priorités qu'impose le contexte mondial. La paix, la sécurité, la gouvernance, la démocratie, bien entendu l'état de droit, l'inclusion dans le développement, la mobilité, les changements climatiques, autant de questions qui méritent beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de multilatéralisme, beaucoup plus d'implication des pays du continent. Une des spécificités de cet accord, c'est qu'il préconise un socle commun et retient trois protocoles différents pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Comme quoi les spécificités de ces différentes régions du monde sont prises en compte dans la résolution de leurs problèmes.
Alamine Ousmane, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Économie encore, le président du groupe en charge de l'exploitation du projet de fer de Ngovayan par Bipindi dans la région du sud-est au Cameroun. C'est à l'effet d'évaluer le niveau d'avancement des travaux en vue du lancement effectif de l'exploitation du gisement et son transport par pipeline jusqu'au port de Kribi. Naven Jindal s'est entretenu ce mardi avec le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, Fou Calistus Gentry. D'autres détails avec Landrine Zanga.
Le projet de fer de Ngovayan comporte trois composantes. La première porte sur la construction des infrastructures internes au projet, la deuxième sur la construction de la mine proprement dite et la troisième sur la mise en place de l'unité d'enrichissement. Les choix de la société se sont portés sur la construction d'un pipeline de 130 km en vue de transporter environ 7 millions de minerais de fer du site vers le port autonome de Kribi. Le projet est assis sur une ressource évaluée à 800 millions de tonnes de minerais avec des réserves prouvées s'élevant à 300 millions de tonnes de fer dont la certification est prévue avant fin juin 2024. Les teneurs du minerai aussi entre 25 et 40% pour une valeur moyenne estimée à 35% de fer. À long terme, le projet va générer 2000 emplois directs pendant la phase de construction et 1000 emplois directs pendant la phase opérationnelle. Les emplois indirects envisagés à ce projet prioritaire pour le gouvernement camerounais se chiffrent à hauteur de 20 000. Toutefois, quelques défis sont à relever en vue d'un démarrage effectif du projet de fer de Ngovayan dans de meilleurs délais. Il s'agit par exemple de la construction des infrastructures routières, la construction de l'unité de traitement du minerai, l'actualisation de l'étude de faisabilité du projet et la mise à disposition effective de 100 MW en termes d'énergie. Les travaux vont débuter cette année et d'ici 3 ans, l'on pourra récolter les premiers fruits de ce projet.
Pour le ministre camerounais par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, le projet de fer de Ngovayan dans la région du Sud est une aubaine pour booster l'économie du pays. Fou Calistus Gentry au micro de Landrine Zanga.
Sur le plan du projet Ngovayan, l'arrivée du président signale l'importance que le groupe attache à ce projet camerounais. Et sur le plan d'innovation, ça va être le premier de ce genre en Afrique où on a le fer qui va être transporté par pipeline et sur une distance de 130 km de Ngovayan à Kribi. Ceci est nécessaire vu la nature accidentée des terrains. Ni rail, ni route ne peut pas transporter le fer de cette région. Donc ici, la présence du président de ce groupe annonce le démarrage de ce projet et ça fait aussi l'importance que le monde attache à l'industrie minière camerounaise.
Célébration ce 18 juin sous l'égide de l'ONU de la Journée internationale de lutte contre le discours de haine. Le dossier du 20h braque ses projecteurs sur ce phénomène. À noter que les discours de haine se propagent actuellement à grande vitesse avec une capacité de nuisance sans précédent grâce aux outils numériques. État de lieu, regard d'experts, c'est dans ce reportage d'Agnès Sylviane Anjama.
Surfer dans le cyberespace aujourd'hui, c'est naviguer dans une immense toile parsemée de dangers à l'infini. Et parmi ces dangers, il y a les discours de haine, véritable menace pour la cohésion sociale qui se décline en plusieurs visages sur le web, relève Timothée Jaffet Jetabé, auteur du livre Le Réveil des internautes.
Il y a plusieurs visages. La première dimension, c'est les affrontements par communauté et groupe interposé. Et là, l'exemple le plus parlant, c'est ce que les gens ont appelé à tort les sardinards et les tontinards, les hiboux contre les églisiens. Il y en a qui se connectent simplement pour tirer à bout portant sur telle ou telle personne dans le but de ridiculiser la personne. Il y a des gens qui sont là pour étiqueter les tribus.
Et aujourd'hui, davantage encore, le phénomène est amplifié par les réseaux sociaux où les propos discourtois, injurieux, discriminatoires, violents ou encore de promotion du repli identitaire polluent les médias sociaux, souligne Esther Ipem, certifiée en cyber cybersécurité.
Sur Internet, quand votre histoire est étalée sur la toile, on dit que c'est votre tour de bouffer la tontine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens derrière qui ont contribué justement à partager ces mauvaises informations-là. Avoir des stéréotypes de ce type n'est vraiment pas très bon.
Face à l'ampleur de la menace que constituent les hate speech, Timothée et Esther livrent des pistes de solutions.
On demande aux internautes de se réveiller pour revenir à l'usage plus raisonnable des réseaux sociaux.
Veillons à ce que nous-mêmes ne soyons pas des vecteurs de distribution des discours haineux.
Mais il s'agit d'une cause commune, vient réitérer la journée de lutte contre le discours de haine ce 18 juin à l'initiative de l'ONU.
Haine en ligne pèse en berne. L'Organisation des Nations Unies sonne l'alerte et rappelle les ravages que ces discours, impropres à la morale et à la cohésion sociale, génèrent dans la société. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, souligne dans son adresse de circonstance que la haine est un feu qu'il nous faut éteindre sans tarder. Gilles Claude Boitundi.
Les visages de la haine sur la toile ne sont pas voilés. Racisme, différences religieuses, conflits ethniques, croyances ou affiliations politiques. Une étude menée par l'UNESCO dans 16 pays en 2023 montre que les discours haineux restent omniprésents. Sur Internet, 8% de personnes handicapées, 13% de personnes en surpoids, 17% de minorités religieuses ou encore 28% de minorités raciales ont été régulièrement exposées à la haine en ligne. Le secrétaire général de l'ONU ne mâche pas ses mots. Il n'y a pas de niveau acceptable dans les discours de haine et nous devons toutes et tous nous efforcer à les éradiquer, dixit Antonio Guterres. Au Cameroun, certains acteurs politiques sont devenus des champions de l'amertume. Ils la déversent sans pudeur sur les réseaux sociaux par des appels à la violence et à la désobéissance civile. D'où la sortie musclée du président de l'Assemblée nationale le 11 juin dernier. C'était à l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre basse du Parlement. Le très honorable Kavayégué Djibril a invité le peuple camerounais à ne pas prêter le flanc aux appels à la violence qui polluent la toile. Les plateformes numériques sont débordées par la montée du mal. 85 000 vidéos YouTube et 1,6 million de contenus haineux chez X ont enfreint la politique de ces plateformes en 2023. Heureusement, il existe une stratégie et un plan d'action de l'ONU contre les discours de haine. Ils incluent la sensibilisation à la tolérance par le numérique. L'ONU mise sur l'éducation et le renforcement des partenariats entre les différents États membres.
La lutte contre les discours de haine aujourd'hui est une nécessité au Cameroun au regard de la montée en puissance des messages de division favorisés par le mauvais usage des réseaux sociaux. Constance.
Les deux derniers matchs des Lions Indomptables du Cameroun ont laissé un goût amer à de nombreux compatriotes. Pendant la préparation de ces rencontres, des camps s'étaient alors formés selon qu'on était favorable à la FECAFOOT ou au ministère des Sports. Et lors des débats à la radio ou à la télévision, les partisans des deux camps n'ont pas fait l'économie de messages de haine les uns envers les autres. Comme d'habitude, le recours aux réseaux sociaux a permis aux adeptes des discours de haine et de la division de véhiculer leurs messages. Et puisque nous sommes en 2024, il est loisible de penser qu'en 2025, année électorale au Cameroun, avec notamment la très attendue présidentielle et ses débats passionnés, que le phénomène des discours de haine risque de s'amplifier si rien n'est fait. Nous avons encore en mémoire les dérapages de certains compatriotes avant et après l'élection présidentielle de 2018, avec d'un côté les sardinards et de l'autre les tontinards, des noms de stigmatisation qui ont entraîné le pays dans un cycle de violence verbale jamais connu. Alors que nous célébrons la Journée internationale de lutte contre les discours de haine, il faut prendre conscience de leurs effets néfastes qui sont entre autres violence, exclusion, discrimination. Et généralement, ces discours de haine se nourrissent de la désinformation et éloignent les uns des autres. Les multiples campagnes de sensibilisation contre les discours de haine et la xénophobie initiées par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme trouvent alors toute leur pertinence et leur utilité en ce moment au Cameroun.
La société dans laquelle nous vivons est en émoi face à la montée du sentiment de profonde antipathie, la haine, un fléau social à craindre. Ce mal est de plus en plus perceptible dans les médias. Et en guise d'invité, nous vous proposons ce fragment de débat conduit par Sylvain Yaman avec les hommes de médias.
La montée des discours de haine dans les médias. Il y a lieu d'interroger l'inclinaison ou le tournant amorcé par les médias. Nous avons fait appel pour cela à des spécialistes des questions de médias. Yannick Anson-Monekdem du quotidien Le Jour, Eric Boniface Tchouake, chef de chaîne de Radio Siantou à Yaoundé, Alain Denis Mbezele, chef de la cellule de communication du Conseil national de la communication. Je commence par vous.
C'est un phénomène qui a cours dans notre espace public, notamment dans les médias, même si nous hésitons souvent à criminaliser les professionnels des médias. Les auteurs sont souvent des invités dans les médias.
Yannick Anson-Monekdem du quotidien Le Jour.
L'essentiel des discours de haine sont d'abord tenus sur les médias sociaux. Et même lorsque les discours de haine sont tenus sur les médias, ils prennent leur ampleur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quelqu'un a tenu un propos lors d'une émission à la radio ou à la télévision, ou même a écrit quelque chose dans un journal papier, le buzz se fera sur les réseaux sociaux. Les personnes qui tiennent les discours de haine, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les journalistes ont certainement une faiblesse. On a l'impression dans nos médias qu'il y a des personnes qu'on invite de manière systématique. C'est-à-dire les journalistes eux-mêmes ne renouvellent pas le personnel de leurs émissions.
Vous permettez ?
Oui,
je
oui.
Je ne voudrais pas rebondir. Hein. On ne peut pas considérer le fait que l'émission soit en direct comme une excuse. Parce que la question de la conduite d'une émission est un acte professionnel.
Éric Boniface.
C'est pas parce qu'on vous a signifié que tel est habilité à parler au nom de mon parti que vous allez lui donner la parole. Pour lui donner la parole, il faut bien qu'il ait un lien entre sa présence et le sujet traité. Au Cameroun, si vous prenez le champ politique, par exemple, il y a plus de 300 partis politiques, vous n'inviterez pas 300 personnes. Vous faites donc le casting en fonction du sujet. Quand je parle de faiblesse dans la préparation des programmes, beaucoup de personnes, ressources de premier plan, qui devraient être les personnes de premier plan pour les médias, refusent de venir s'exprimer. Notamment ceux qui sont aux commandes des affaires publiques. Ils souffrent simplement que les journalistes aujourd'hui, et surtout les médias, s'adaptent à l'évolution. Cameroun, on a très peu de médias qui diffusent des contenus, notamment sur les réseaux sociaux, en temps réel.
On devrait demander une sorte d'orientation du discours médiatique vers la promotion des différentes cultures, traditions et croyances afin de lutter contre les stéréotypes qui favorisent les attitudes haineuses dans les médias. On devrait le faire, peut-être par des sanctions positives, hein, parce qu'il en manque souvent.
Merci beaucoup Yannick Anson-Monekdem, Éric Boniface Tchouake, Alain Denis Mbezele. Merci à vous.
Le 20h se poursuit sur le poste national de la CRTV alors qu'il est 20h passé de 17 minutes. L'annuaire statistique 2023 du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat est disponible. Il était présenté ce jour à Yaoundé au cours d'un atelier présidé par le ministre Achille Basile-King III. De façon globale, plus de 19 000 PME ont été créées en 2023, soit une augmentation de stock de l'ordre de 12,4%. Par rapport à l'année précédente, Marie-Monique Mbozo.
Pour la seule année 2023, le tissu économique camerounais s'est enrichi de 19 651 PME, ce qui ramène le stock des petites et moyennes entreprises en activité à 393 166, soit une augmentation de 12,4% par rapport à 2022. Douala et Yaoundé concentrent 57,4% des PME en activité, ces dernières qui sont à 97% constituées des entreprises individuelles. Si les hommes sont majoritairement représentés, soit un peu plus de 62%, on note pour s'en féliciter l'engouement des jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. En effet, près de 40% de PME sont créées ou dirigées par la tranche d'âge de 30 à 40 ans. On note par ailleurs que la majorité des PME exercent dans le secteur tertiaire, soit 79,6%, 20,3% dans le secteur secondaire et seulement 0,1% dans le secteur primaire, celui de l'agriculture, de la pêche et des mines. Ces petites et moyennes entreprises créées en 2023 ont généré près de 138 000 emplois et de façon générale, les secteurs contribuent à hauteur de 36% dans le produit intérieur brut. D'autres informations sont contenues dans l'annuaire statistique présentée ce jour, telle la contribution des politiques publiques en faveur des PME et les implications économiques.
Un peu plus de 19 000 petites et moyennes entreprises créées en 2023 complètent le stock d'entreprises en activité au Cameroun à 393 954. Pour le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, ces données statistiques suscitent une analyse des politiques publiques. Le ministre Achille Basile King III, au micro de Marie-Monique Mbozo.
À la lumière de ce que nous avons enregistré comme résultat, un certain nombre de mesures incitatives doivent continuer d'être déployées en faveur des PME, des organisations de l'économie sociale et des artisans. Je ne peux que exprimer par rapport à tous les partenaires au développement qui nous accompagnent l'appréciation du gouvernement pour cette synergie d'action afin que des instruments tels que l'agent de promotion des PME, les programmes qui sont mis en œuvre continuent d'être soutenus. Il y a véritablement un engouement autour de la création des petites et moyennes entreprises. Je note un recul des grandes entreprises. Sur l'année 2023, le Cameroun ne compte qu'un stock de 787 grandes entreprises, ce qui confirme que le tissu économique camerounais reste largement prédominé par les petites et moyennes entreprises qui représentent un peu plus de 99%.
Achille Basile King, III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Pour ce qui est des produits laitiers, le plan national de développement de la filière est également disponible. Le document a été remis ce mardi au ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales par les responsables de la GIZ, partenaire technique. L'ouvrage contient des stratégies visant à accroître la production laitière nationale et combler le déficit annuel estimé à 120 000 tonnes. Rose au coco.
Au Cameroun, le lait occupe une place importante dans l'économie agricole et alimentaire. Mais l'offre reste inférieure à la demande, selon les experts. Albert Doufissa, consultant.
En 2022, la production était de 173 000 tonnes pour 20 000 tonnes d'importation. On a moins de 200 000 tonnes pour une population du Cameroun de 27 millions. On est à 7 kilos par habitant. Mais on est très loin des normes minimales qui sont autour de 40 litres par habitant et par jour.
Pour booster la production laitière et limiter les importations, le gouvernement, à travers le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, s'est engagé à élaborer un plan national de développement de la filière.
Ce plan a 6 programmes. Il s'agit de transformer d'abord la génétique animale, ensuite l'alimentation, la santé, la transformation des produits laitiers. Et tout cela doit être supporté par un bon programme de recherche et développement et une bonne gouvernance.
La phase initiale du projet, qui bénéficie de l'appui technique de la GIZ et de l'Union européenne, s'étend sur 20 ans. Période au cours de laquelle 304 milliards de francs CFA seront distribués aux différents acteurs de la filière laitière. L'objectif étant de passer de 173 900 tonnes de lait en 2022 à au moins 1146 tonnes d'ici 2035.
Sur la plus-value du plan national de développement de la filière lait au Cameroun, écoutons le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Dr Taïga est au micro de Rose Okoko.
C'est un document important, prescrit par la hiérarchie. Il fait partie de la feuille de route du ministère de l'élevage. Il vient ici pour concrétiser le programme d'import-substitution du chef de l'État où la filière laitière, notamment la production laitière, est ciblée. Donc c'est un document de travail, le temps de le faire valider par la hiérarchie et pour sa mise en œuvre progressive. Donc la plus-value, c'est que nous avons déjà un outil de travail, un outil de cadrage des activités du secteur et un outil de lisibilité des actions futures à mener dans le secteur de la filière laitière.
Docteur Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. L'accès aux services fiables et aux opportunités socio-économiques pour les migrants et les populations déplacées dans les villes. Le cas de Douala et précisément du 3e arrondissement préoccupe le programme d'appui à la planification urbaine dans le contexte migratoire, ONU Habitat et le secrétariat d'État suisse à l'économie. Tous ces partenaires, avec l'appui du gouvernement camerounais, entendent améliorer les conditions de vie des populations déplacées internes. Un colloque s'est ouvert ce matin à Yaoundé pour présenter les projets prioritaires à Douala 3e. Madame Samba, coordinatrice du programme à la planification urbaine Bureau Cameroun, s'exprime au micro d'Arlette Amadou.
Nous attendons en fait de répondre à travers la proposition de ces projets prioritaires aux enjeux qui ont été identifiés dans l'analyse spatiale. Donc on a mentionné les enjeux concernant l'exposition, la vulnérabilité aux aléas naturels, par exemple les inondations, aussi les glissements de terrain, mais également un besoin de certains services, par exemple des services, des équipements qui rendent en fait une entrée économique, par exemple les marchés, ou également des services qui pointent à vraiment à promouvoir l'intégration des personnes déplacées internes avec les communautés hôtes, donc par exemple des centres sociaux. Donc on pointe vraiment à répondre à ces enjeux majeurs qui ont été identifiés dans l'analyse spatiale à travers ces propositions ponctuelles d'investissement dans la troisième phase du programme.
Dans la vie des partis politiques, les activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais passées au scanner dans la section Nyon et Mfoumou Nord. Le patron de cette circonscription politique, par ailleurs, maire d'Ayos, Paul Ndongo-Biko, préside après-demain jeudi 20 juin 2024 une réunion d'évaluation. Ce sera à 10h à la salle des actes de la mairie d'Ayos. Ils sont attendus, les responsables des 44 sous-sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC du Nyon et Mfoumou au Nord. Le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Axétique poursuit sa visite de travail en France ce mardi. Armand-Claude Abanda prend part à une concertation au siège de l'UNESCO à Paris. Déjà ce matin, il a rencontré un groupe d'anciens de l'IAI disposés à aider à la recherche de partenariats universitaires au profit de la chaire UNESCO dont il est le titulaire. Joint au téléphone par Agnès Sylvienne Antama, le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda, fait le point.
Nous avons rencontré les autorités de l'ambassade du Cameroun, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, à qui j'ai remis une copie du rapport de la première année de la chaire UNESCO d'Afrique centrale. Par la suite, nous avons eu un entretien avec Dr Komja, conseiller culturel de l'ambassade du Cameroun en France, et je pense que ça s'est très très bien passé. Et les orientations de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de veiller à ce que le travail qui est effectué au sein de la chaire UNESCO soit très bien fait, il met en place les éléments techniques et scientifiques qu'il faut pour lui assurer une belle réussite.
À retenir de ce journal, l'Assemblée nationale, 3 projets de loi en examen ce jour à la Commission des affaires étrangères. 3 membres du gouvernement sur le grill pour défendre ces projets de texte. Lutte contre les discours de haine via la toile, toute une journée instituée par les Nations Unies pour tirer la sonnette d'alarme sur les ravages de ce phénomène. Ce 18 juin, le dossier du 20h a dressé l'état des lieux avec en appui le regard des experts dans la croisade contre la montée en puissance des messages de division dans les réseaux sociaux. Petites et moyennes entreprises, plus de 19 000 créées l'an dernier, portant à 393 000 le stock de sociétés en activité au Cameroun. C'est ce qui ressort de l'annuaire statistique présenté ce mardi à Yaoundé. 20h27, fin de ce journal. Technique Désiré Melingui, réalisation Christine Victoria Penda, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah. Merci, bonne soirée à tous avec la CRTV.